Avertissement, avertissement.
Cette émission
peut contenir des infos.
Ça a l'air de rien, mesdames, messieurs, mais nous mettons beaucoup de temps à bâtir cette émission-là d'une semaine à l'autre. On est des vrais charpentiers, hein, entre guillemets. On a le, là, on mesurait accroché à la ceinture, puis là, on mesure le temps, puis on essaye de se trouver des sujets. C'est un petit peu ça qu'on fait, bâtir une émission, hein, Sébastien, c'est ça, hein,
tu vois? Ouais. Oui, bonjour Simon. Ben, on a travaillé fort encore une fois, puis on en a beaucoup de sujets aujourd'hui, il faut l'admettre. Ça va être une émission chargée avec des sujets très intéressants.
Oui, puis la charpente est solide à part de ça, parce qu'on a bâti une belle grosse émission. Vous allez voir ça une fois qu'on va être arrivé à la fin. Tu as des sujets particulièrement intéressants cette semaine. Tu vas parler, entre autres choses, je pense, de micro-ondes un petit peu plus tard.
Oui, tu sais, on s'est toujours demandé, ou on s'est beaucoup fait dire que les micro-ondes, c'est dangereux, mettre sa face, par exemple, devant un four à micro-ondes, et de parler un peu de qu'est-ce que c'est l'ensemble de tout ça. C'est méconnu par moment, alors on va éclaircir les choses concernant le micro-ondes.
Bon, parfait. Moi, je vais vous parler un petit peu plus tard dans l'émission de la Station spatiale internationale. Vous savez que la Station spatiale internationale arrive à toute fin utile à la fin de sa vie, et je vais vous dire ce qu'on va en faire pour qu'elle termine en quelque sorte le rôle qu'on lui avait destiné. Plus loin dans l'émission, toi, tu parles de...
Ben, les tipitous, s'il y a des amoureux des chiens qui nous parlent, là, je vais parler de l'espérance de vie des chiens selon leur race. Hein? Quelle race de chien vit le plus longtemps, moins longtemps, tout ça, il y a des belles études qui sont sorties là-dessus. Et un autre sujet que j'ai gardé pour la fin aujourd'hui, on va faire un bloc sur la magie.
Parfait. Puis moi, j'aurai un petit peu plus loin à vous parler des bananes. Ça vient d'où, les bananes? Hein? D'où ça vient? Puis comment ça se fait que ça existe, les bananes? Alors, pourquoi il y en a sur les étagères des supermarchés? Je dis pas qu'on va ratisser de long en large, mais vous allez voir, ça va être très intéressant. Mais on débute avec ton premier sujet, une fleur tout à fait unique, mais qui est un petit peu compromise, là, pour ainsi dire.
Ben oui, on parlait précédemment cette saison et même fin de saison dernière, elle peut contenir des infos. Vous aviez abordé le sujet des voitures électriques et lorsqu'on parle de voitures électriques, on peut pas passer à côté des batteries, les fameuses batteries et le lithium. Hein, ça prend du lithium et là, les mines de lithium, ben il y en a beaucoup. Puis aux États-Unis, cette fleur dont je vais te parler, qui est unique au monde, est menacée justement par une mine de lithium.
Ah ouais, hein?
Okay. Ouais, ben les États-Unis ont donné le feu vert pour construire une mine de lithium, qui est un métal, là, comme je vous disais, crucial pour produire des batteries de voitures électriques. Et là, la mine sera située au Nevada, et c'est l'habitat d'une fleur qui est unique au monde. Il y en a juste là, c'est le Thiem's Buckwheat, une fleur de sarrasin. Buckwheat, c'est sarrasin en français. Puis la société australienne Ioneer, qui a annoncé le 24 octobre, là, c'est assez récent, qu'ils ont reçu leur permis fédéral pour la mine. Un permis qui autorise d'entamer la construction l'année prochaine, en 2025. Là, si tout se passe comme prévu, ils veulent débuter l'exploitation de lithium en 2028. Puis le projet va créer 350 emplois dans l'État du Nevada. Le taux de chômage est parmi les plus élevés aux États-Unis au Nevada. Donc, on voit ça d'un bon œil. On veut la mine de lithium.
Ben oui.
C'est Rhyolite Ridge. Je ne sais pas si je prononce comme faux rhyolite, là. Rhyolite.
Je ne saurais pas t'éclairer.
Ben, c'est un site où ils veulent faire la mine et c'est rocailleux. Ils abritent assez de lithium pour fournir la matière première pour les batteries de 370 000 véhicules électriques. Et ça, chaque année, pendant 25 ans.
OK.
on jase, là. C'est même de quoi quadrupler la production américaine de lithium, qui est presque inexistante aujourd'hui. Là, on n'a pas vraiment de lithium aux États-Unis. Mais une fleur de sarrasin est menacée par cette mine de lithium. Le projet de mine est identifié comme une des principales menaces pour cette fleur. Donc, on l'appelle, comme je te disais, Thiem's Buckwheat, et elle est inscrite sur la liste des espèces en danger aux États-Unis. Donc, ça cause problème, là, bien entendu, tu me vois venir. Il en reste seulement 20 000 de ces fleurs. Puis, ça pousse pas partout. C'est vraiment dans quelques endroits très spécifiques sur une surface totale équivalente à 5 terrains de football. Il y en a nulle part ailleurs dans le monde. Quand on dit fleur unique, là, alors cette fleur de sarrasin, il faudrait pas la perdre. Mais là, mine de lithium, la compagnie Ioneer a promis de prendre des mesures pour sauvegarder la plante. Elle prévoit des rideaux anti-poussière. Ça, c'est pour bloquer les nuages de terre soulevés par les camions, hein, pour exploiter la mine. Puis, elle devrait détruire graduellement 22% de l'habitat de la plante. Mais on promet, du côté de la compagnie, de réhabiliter la majeure partie des terrains qui sont affectés. Et Ioneer qui a aussi effectué 2,5 millions de dollars de recherche sur la fleur. Donc, au moins la compagnie ne prend pas ça à la légère. On la cultive en serre, puis on veut la replanter sur place. Donc, bon, c'est une option. En septembre cette année, les autorités aux États-Unis ont rendu une étude d'impact environnemental positive sur le projet. Donc, c'est pour ça qu'on l'a autorisé. Mais là, les associations écologistes sont pas convaincues. Il y a le Centre pour la biodiversité qui a annoncé qu'il travaillait sur une action en justice. Donc, lorsqu'on veut exploiter des choses, hein, puis que ça met en péril des espèces, on en voit tellement disparaître. Là, on parle de fleurs, mais on a eu tellement d'animaux pour toutes sortes de raisons qui sont disparus. Alors, il y a un des responsables de l'organisme, Patrick Donnelly, qui a dénoncé qu'en donnant le feu vert à la mine, le gouvernement américain renonce à son devoir de protéger les espèces menacées. Et ben, c'est sûr qu'on a besoin de lithium pour la transition énergétique, mais lui, il dit que ça ne peut pas passer au prix de l'extinction de la biodiversité. Donc, ce sera un sujet à suivre, mais je voulais en parler aujourd'hui pour montrer à quel point on a des espèces qui sont tellement rares, qui sont tellement belles, et là, quand on veut exploiter comme ça, ça peut les mettre en péril. Donc, en tout cas, j'espère qu'ils vont tenir leurs promesses et vraiment tenter de, au moins, garder la plante vivante à cet endroit-là. Donc, eux autres, ce qu'ils font, c'est ils en replantent, puis ils vont essayer de pallier au problème, sauf qu'on a besoin de cette mine de lithium du côté des États-Unis.
C'est là qu'on voit que notre volonté de progresser, hein, dans les technologies, ça peut parfois sembler incompatible avec la préservation de l'environnement, mais pour peu qu'on y mette quelques efforts, il y a peut-être moyen d'accoucher de certaines solutions pour justement régler des affaires comme celle-là. Une fleur, j'ai presque le goût de dire emblématique, parce que c'est le seul endroit dans le monde où ça pousse. Là, dans
une ben oui, ouais, non, c'est ça. On ne veut plus perdre d'espèces, mais on a besoin de cette transition énergétique. Donc, on ira de l'avant, puis on donnera des nouvelles si voir comment ça se développe, ce dossier, ben, éventuellement, peut-être l'année prochaine.
Ouais. Dans le progrès, vous savez que les technologies de l'Internet et de l'informatique, ça nous pousse évidemment à progresser, mais tout le monde sait que naviguer sur Internet, c'est un petit peu comme l'histoire du petit pousset. Hein? On sème des petits cailloux sur notre parcours pour retrouver son chemin et on laisse beaucoup de traces derrière nous autres quand on se promène en ligne, et les compagnies, de cette façon-là, c'est pas nous autres qui retrouvent notre chemin, c'est eux autres qui nous retrouvent en chemin. Ils savent à peu près tout sur nous autres, les sites visités, le temps qu'on passe en ligne, dans quel pays on réside, qu'est-ce qu'on a commandé sur Internet et tout ça. Et c'est particulièrement vrai sur un moteur de recherche en particulier. Devine lequel?
Google.
Ben ouais, Google, ben oui, évidemment. Ben c'est sûr, hein, c'est le moteur de recherche le plus connu, le plus utilisé. Je pense qu'il y a quelque chose comme environ 90%, on estime cette proportion-là de la recherche en ligne qui est consacrée à Google. Oui, 90%, 9 recherches sur 10 à toute fin utile. Sauf que Google, c'est probablement l'un des plus voraces d'informations. Ils enregistrent pas mal de données sur vous là, qui nous écoutez, et vos habitudes évidemment de navigation. C'est son fonds de commerce. C'est comme ça qu'il fonctionne. Or, il y a des moteurs de recherche qui respectent un petit peu plus la vie privée, ou du moins beaucoup plus que Google. Et je vais vous en présenter 3 aujourd'hui dont vous ignorez peut-être l'existence, puis qui vont vous aider justement à ne pas transformer votre séance de navigation sur Internet en parcours du petit pousset où vous semez des petits cailloux. Mm-hmm. Je vous parle d'abord de Mojik, M-O-J-E-E-K, Mojik.com. C'est un moteur de recherche britannique, et contrairement à plusieurs de ses concurrents, c'est là la particularité, c'est que lui, il ne va pas piocher dans les bases de données de Google et Microsoft pour enrichir ses recherches, mais il a commencé depuis 2006 à faire exactement ce que Google avait fait en 1998, c'est-à-dire à constituer sa propre base de recherche de site web, son propre index. Donc, quand vous cherchez sur Mojik.com, vous ne cherchez pas, comme d'autres moteurs de recherche, dans des bases de données qui ont été faites par Bing de Microsoft, par exemple, ou encore Google ou Yahoo. Vous cherchez dans la base de recherche de Mojik. Et les résultats sont donc totalement distincts de ceux que vous allez trouver via Google et Bing de Microsoft. Mais c'est surtout plus respectueux de la vie privée des usagers, parce que Mojik ne traque pas d'abord les usagers, les utilisateurs, et il met pas comme de cookies, un peu comme ce que Google mm-hmm. fait. Vous savez, les cookies, c'est des traceurs. C'est ça qui fait qu'on vous suit en ligne. Il est disponible en français. On peut y accéder sur le web, mais aussi comme une application mobile. Bref, si vous cherchez Mojik dans des boutiques comme iOS et Android, vous allez trouver là. Et il y a même des plugins pour les navigateurs connus comme Google Chrome, Microsoft Edge ou encore le fameux Mozilla Firefox. Alors, si ça vous tente d'aller faire un petit tour sur Mojik.com, vous risquez d'être moins tracé que sur Google. Un autre qui est quand même un petit peu plus, je dirais même beaucoup plus connu, c'est DuckDuckGo. Connais-tu DuckDuckGo?
Non,
Non. Ça, alors, c'est quand même, je vous dirais, l'un des plus connus là, qui se pose en alternative à Google. Il grimpe en popularité. Et c'est surtout, évidemment, son respect de la vie privée des utilisateurs qui lui a d'ailleurs permis de se hisser parmi les moteurs de recherche alternatifs les plus réputés. Et ce qui est intéressant avec DuckDuckGo, c'est que, oui, je disais que Mojik ne va pas piocher dans les bases de données des autres moteurs de recherche, mais ça reste intéressant quand même quand vous pouvez fouiller davantage de sources. Et là, DuckDuckGo, lui, le fait parce qu'il tire ses résultats d'à peu près 400 index à travers le monde. Donc, la base de données, elle est très riche. Oui, il y a Bing, oui, il y a Yahoo, il y a Yandex aussi. Donc, sa base de données d'indexation est très, très riche. Et ce moteur-là, DuckDuckGo.com, DuckDuckDuck comme un canard, là, DuckDuckGo.
Ah, c'est D-U-C-K.
Voilà, D-U-C-K, D-U-C-K-Go.com, DuckDuckGo. Et ce moteur-là ne vend pas les données des usagers à des fins publicitaires. Il est disponible dans les appareils mobiles et il ne recueille pas non plus d'informations personnelles identifiables. Donc, c'est intéressant. Et ce qui est aussi pas pire, c'est que votre adresse IP n'est pas tracée non plus. Parce que, tu sais, des fois, ils vont mettre des cookies. Là, tu dis OK. Là, en plus, ils rajoutent une pile. Ils savent ton numéro IP. Donc, forcément, ils savent à quel endroit tu te situes sur le globe. Donc, des connexions cryptées d'un bout à l'autre. C'est vraiment très, très intéressant. DuckDuckGo.com, c'est le deuxième que je vous suggère. Et je vais conclure avec Quant. Q-W-A-N-T.com. Quant.com. C'est un moteur de recherche français et lui, sa particularité, le respect des usagers, il le doit au fait qu'il est inscrit ou il est soumis aux règles européennes du RGPD, c'est-à-dire cette espèce de règlement européen sur la protection des données. Donc, il est plus respectueux de la vie privée. Pas de cookies dans votre navigateur, pas d'historique de recherche conservé dans le système. Ça a du bon, ça a du moins bon. L'avantage, quand vous avez un historique de données, c'est que si vous voulez y retourner, comme sur Google, par exemple, vous avez des chances de retrouver des choses que vous avez déjà cherchées, puis vous dites, « Semble, j'aimerais ça le retrouver. » Bon, Quant, vous n'aurez peut-être pas ça, mais en revanche, c'est peut-être le prix à payer aussi pour ne pas vendre vos données à des business. Comprenez ce que je veux dire? Mm-hmm. Des fois, dans la vie, il faut faire des compromis à certaines places. Alors, comment ils se financent, Quant? Vous allez dire, ben oui, mais ils ne recueillent pas de données. C'est le fonds de commerce de Google, ramasser des données pour vendre des publicités ciblées. Ben, c'est ça. Quant, il y a des publicités, mais elles ne sont pas tant liées à vos habitudes de recherche comme au sujet de recherche que vous faites. Si vous cherchez par exemple, semences à gazon, ben oui, il va vous sortir des annonces de semences à gazon, mais pas forcément des annonces de semences à gazon du dealer qui est à quatre coins de la rue chez vous. Comprenez ce que je veux dire? Donc voilà, si ça vous tente de trouver des alternatives à Google puis de pas trop, disons, laisser des pans de votre vie privée sur Internet, je vous suggère Mojik.com, M-O-J-E-E-K.com, DuckDuckGo.com et le dernier, c'est Quant, Q-W-A-N-T.com. Essayez ça, puis vous m'en redirez des nouvelles. Vous allez voir qu'il y a des moteurs. On pense que Google, c'est la plus grande invention après le pain tranché, tu sais.
On dirait que c'est le seul qui existe, là, des fois.
Dans la tête des gens, c'est le seul qui existe. Puis on pense qu'il y a juste Google, mais là, je viens de vous en donner d'autres qui pourraient être de brillantes alternatives pour respecter votre vie privée. On s'arrête pour une première pause. T'es prêt pour ça, Sébastien?
Absolument.
On prend une gorgée d'eau ou deux et puis on revient dans un moment avec d'autres sujets pour l'émission Peut contenir des infos.
Pour rester en contact avec Peut contenir des infos, abonnez-vous à notre page Facebook. Si vous avez des idées, des suggestions ou des questions à nous soumettre, écrivez-nous par courriel pcdi@radiorfa.com.
On est rendu à notre deuxième bloc de l'émission Peut contenir des infos. Sébastien Boucher et moi-même, Simon Ford, qui vous accompagnons pour encore 45 minutes ou à peu près, là, jusqu'à la fin de l'heure. Tu vas parler dans un tout petit instant des micro-ondes.
Oui.
Moi, je vais d'abord parler de la Station spatiale internationale. Vous savez qu'elle arrive à sa fin, hein, la Station spatiale internationale.
Oui, ça achève cette histoire-là. Ben, on veut une relève.
Oui, bien, c'est ça. Puis, écoute, c'est comme n'importe quelle construction humaine. À un moment donné, ça s'use avec le temps, ça, c'est sûr et certain. Bon, il y a des constructions qui datent de temps immémoriaux. Là, les pyramides égyptiennes et aztèques sont encore visibles, sont encore debout. Mais, tu sais, nos maisons s'usent, nos voitures et tout ça. Bien, la station spatiale, c'est elle aussi, elle subit le poids des années. On a tendance à l'oublier, mais tu sais quand le premier module a été mis en orbite, hein? La station spatiale, as-tu une idée de l'année?
Le premier module en orbite, oh là là, j'aurais dû te surprendre avec ça et savoir ça par cœur, mais non, je ne m'en rappelle plus.
Ben, novembre 1998, ça fait déjà quand même un quart de siècle, mine de rien. Hein?
Quand même.
Si on avait une auto qui date de 1998, elle commence à montrer un peu des signes d'usure. Ben, c'est la même chose là, pour la station spatiale. Les matériaux se détériorent, les systèmes deviennent moins efficaces, les réparations deviennent de plus en plus complexes et coûteuses. Et puis, la maintenir en orbite, c'est rendu extrêmement onéreux, juste comme faire une patch, par exemple, pour le système informatique, ben, mobiliser un paquet de monde de programmeurs là, pour faire une patch pour des ordinateurs, ça coûte de l'argent un peu juste pour une patente qui date d'il y a 25 ans. Et c'est d'autant plus coûteux encore que les agences spatiales du monde, en même temps, ils ont d'autres projets. Ils veulent explorer la Lune, par exemple, notre satellite. Ils veulent aller jusque sur Mars. Donc, on veut consacrer de l'argent à d'autres postes de dépenses et dans des missions qui vont nécessiter des ressources importantes. Alors, qu'est-ce qu'elle va devenir, la Station spatiale internationale? Ben, d'abord, vous dire que la fin est prévue pour, excusez-moi, demain la veille, là, 2030. Alors, la fin prévue de l'ISS, la Station spatiale internationale. Et qu'est-ce qu'on va faire avec la Station spatiale internationale? On va la brûler dans l'atmosphère, littéralement. C'est une structure qui est longue de 110 mètres. C'est à peu près un terrain de football. Ça pèse quelques 430 000 kilos. Et comment va-t-on la détruire, cette Station spatiale internationale? Ben, on va forcer sa chute jusqu'à ce qu'elle atteigne l'atmosphère et qu'elle se consume en majeure partie. Ouais, on va littéralement la pousser vers sa destruction. Vous savez que la Station spatiale internationale, elle perd toujours un petit peu d'altitude. À chaque année, elle descend un peu, puis on passe notre temps littéralement à la repousser pour qu'elle retourne sur son orbite. Bien là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a octroyé à la compagnie SpaceX un contrat de plus de 800 millions de dollars US. Et l'entreprise a déjà l'expertise, donc ils connaissent la Station spatiale internationale, ils savent comment s'y prendre. Déjà, ils font le ravitaillement, mais c'est eux autres, SpaceX, qui vont contribuer à détruire la station spatiale. Tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va la pousser. On va la diriger vers une zone spécifique de l'océan Pacifique où il y a évidemment le moins de monde possible. Mm-hmm. Et puis, on va laisser d'abord la station spatiale descendre tout naturellement vers la Terre. C'est un processus qui pourrait mettre de 12 à 18 mois. Et pendant ce temps-là, elle va descendre d'à peu près 120 km. Et elle va passer d'une altitude de 400 km jusqu'à descendre à 280 km. Et quand elle va être rendue à la bonne altitude, là, il y a un vaisseau spatial, un véhicule de SpaceX qui va lui donner une série de poussées qui vont la sortir définitivement de son orbite. Et là, elle va tout simplement descendre dans l'atmosphère terrestre. Elle va se désintégrer. On dit que les morceaux vont, somme toute, être pas mal tous détruits par la chaleur qui va être dégagée de cette chute-là. Et les morceaux qui ne seront pas détruits, finalement, vont entrer dans l'atmosphère terrestre et vont terminer dans l'océan. Ça va faire un petit peu de pollution, mais on dit que si elle restait en atmosphère et si on la détruisait là, on s'entend que ça risquerait d'avoir beaucoup plus de conséquences néfastes. Bref, la fin de la vie de la Station spatiale internationale, c'est dû à un ensemble de facteurs, c'est dû à son âge, c'est dû à des coûts qui sont devenus trop élevés et évidemment qu'on a d'autres priorités. On veut aller sur la Lune, ou enfin retourner sur la Lune, on veut aller sur Mars. Donc, ça prend du cash. Et celle qui va en payer le prix, ben, coudonc, c'est la Station spatiale internationale.
L'ISS.
L'ISS, comme on l'appelle en lettres courtes. On se transporte maintenant dans nos cuisines, à toute fin utile, avec les micro-ondes.
Les fameux fours à micro-ondes, Simon, depuis les années 1970, que là, ça a commencé à conquérir nos cuisines, vraiment, c'est apparu en fou. Et ce que je me rappelle, moi, c'est vraiment, on regardait nos repas là, tourner à travers la vitre du micro-ondes quand c'est apparu. Puis là, il y avait toujours nos parents qui nous disaient, moi, je me rappelle pas, j'avais quel âge, mais je pense, la première fois que j'ai eu un micro-ondes, 8 ans à peu près. Moi, je suis né en 79, fait que c'est à peu près là, dans les années 87. Puis, on me disait vraiment, mes parents, regarde pas le micro-ondes, mets pas ta face devant à cause des radiations, c'est dangereux et tout ça. Donc, aujourd'hui, même si on est en train de regarder notre repas souvent dans le micro-ondes, on a ce message de nos parents qui nous revient. Puis, il y a beaucoup de gens, je suis certain, qui nous écoutent, qui font « oui, mes parents me l'ont dit, alors je mets jamais mon visage devant le micro-ondes ». Bon, est-ce que, selon toi, c'est dangereux vraiment? Tu t'étais fait dire la même chose, certainement, quand tu étais plus jeune un peu?
Oui. C'était, je pense, dû à une méconnaissance de cette technologie-là. Mais, tu sais, toi puis moi, je présume que s'ils commercialisent des fours à micro-ondes, c'est qu'ils savent que ça doit pas être trop dangereux là, de rester à proximité, là.
À proximité. Mais c'est pas sans danger, là. C'est pas complètement sans danger. Mais on va voir ce que disent les experts. C'est que c'est pas nécessairement dangereux de rester trop près d'un four à micro-ondes, mais on recommande quand même un minimum de prudence là, pour certaines choses. La casserole, le four, ça réchauffe seulement les aliments de l'extérieur. Hein? On va regarder comment ça fonctionne un four à micro-ondes. Le four à micro-ondes utilise un autre principe complètement. Avec des rayons, il fait vibrer les molécules d'eau hein, dans un plat qu'on prépare. Puis, c'est ce mouvement des molécules d'eau dans la nourriture qui fait que le repas se réchauffe. Donc, ça fonctionne comme ça, les micro-ondes. Et c'est pourquoi, plus il y a d'eau dans un plat à micro-ondes, plus il se réchauffe rapidement. Donc, c'est vraiment oui. C'est les molécules d'eau qui bougent. Puis, le four à micro-ondes fonctionne en émettant des ondes électromagnétiques qui ont une fréquence d'environ 2450 MHz. Et cette énergie des ondes est absorbée par l'eau. Le gras, les sucres des aliments aussi, un petit peu. Puis, ils se mettent à vibrer à un rythme de 2,5 millions de fois par seconde. Ça vibre pas à peu près. On parle d'une vitesse là vraiment hallucinante. Mais le rayonnement des micro-ondes, ça a une énergie beaucoup plus faible que, par exemple, les rayonnements ionisants comme les rayons gamma, les rayons X. Donc, la réglementation impose aux constructeurs aussi de micro-ondes une fréquence qui est comparable à celle du Wi-Fi qu'on utilise et proche de celle pour faire fonctionner les téléphones portables. Donc, c'est vraiment ça. On a des règles, des lois qui obligent à construire des micro-ondes dans ces fréquences-là. Puis, le micro-ondes, ces ondes sont encore plus longues que les rayons UV et la lumière visible. Donc, c'est pas dangereux pour le corps. On s'entend là-dessus. Il y a Robert Delaval, qui est un ingénieur qui teste depuis 40 ans, lui, la sécurité des toutes sortes d'appareils de cuisine. Okay. Puis, selon lui, même si un micro-ondes est défectueux, le risque de blessure est très, très faible. Comme au cours des décennies aussi, les développeurs de micro-ondes ont fait en sorte que les rayons voyagent pas vraiment plus loin que l'assiette là, qui contient le repas dans le micro-ondes. Bon, c'est sûr que si on avait un micro-ondes qui fonctionne la porte grande ouverte, ben là, ça serait dangereux un petit peu. Là. Mais quand on s'éloigne du four, là, ne serait-ce qu'un petit peu, les niveaux de rayonnement diminuent de façon exponentielle. Donc, à quelques centimètres, on recule de quelques centimètres de plus du four, puis déjà là, on a vraiment pas de problème. Donc, pendant que le repas est en train de chauffer, juste s'éloigner un tout petit peu, c'est-à-dire de pas se coller la face devant. Ouais. Quand on fait une utilisation normale, la température de cuisson, ça dépasse rarement les 100 degrés là, au micro-ondes, température à laquelle l'eau se vaporise. Donc, le risque d'apparition de composés cancérogènes, c'est beaucoup plus limité avec un micro-ondes qu'avec d'autres modes de cuisson. Déjà okay. Là, c'est comme plus sécuritaire à ce niveau-là. Mais il faut déconseiller les expériences physiques. Hein. Faut pas, dans les micro-ondes, il y a plein de choses qu'il ne faut pas faire. Hein. On comprend qu'il ne faut pas mettre de métal. Je ne sais pas s'il y a... Ça fait des flamèches, pas à peu près. Donc, non, ça devient dangereux. Donc, ce n'est pas un jouet pour faire des expériences quand même, là, parce que là, on pourrait le rendre dangereux. Les micro-ondes peuvent être utilisés pour cuire des aliments, détruire des bactéries qui pourraient s'être introduites dans les aliments aussi. La cuisson n'est pas uniforme, par contre, parce qu'on s'est rendu compte que ça peut détruire les bactéries. Sauf qu'il y a des aliments qui nécessitent des petites précautions, parce que les micro-ondes, ça pénètre seulement de 2,5 cm à 4 cm à l'intérieur d'un aliment. Okay. Donc, quand l'aliment est plus gros, si on a quelque chose de gros, les micro-ondes sont complètement absorbés avant d'avoir atteint le centre. Donc, les molécules d'eau au centre ne vibreront pas, elles. Donc, le repas se chauffe seulement, le centre se chauffe seulement de l'extérieur par le reste de l'aliment qui est chaud. Hein, fait que ça finit par chauffer le centre. Mais c'est pas parce que les micro-ondes agissent sur le centre, ça se rend pas là. Alors, il y a des portions qui sont pas traversées par les micro-ondes et qui seront pas réchauffées. Mais si on le laisse longtemps, ça se réchauffe tout simplement à cause que le tour est chaud.
Je comprends que cuire un poulet entier au micro-ondes, c'est pas l'idée du siècle. Là.
Ben non, parce que le centre du poulet sera jamais chaud. C'est ça l'affaire. Le micro-ondes fait vraiment vibrer les molécules d'eau, mais pénètre pas plus loin que 4 cm.
C'est pour ça qu'on est beaucoup mieux de découper le poulet à la rigueur en morceaux avant de le faire cuire.
Oui, puis si c'était pour cuire au micro-ondes, en effet, là, ça cuirait. Il y aurait pas de problème s'il est coupé en petits morceaux.
Ouais,
en
okay. effet.
Mais tout ça pour dire que les micro-ondes, non, c'est pas dangereux. Et puis, d'attendre là plusieurs secondes, t'sais, on nous disait aussi, attendez vraiment les 5 bips avant d'ouvrir la porte, parce que mais c'est pas vraiment dangereux ça non plus. Donc, on est vraiment allé trop dans la précaution. On a fait preuve de circonspection pendant très longtemps. Là, je suis un petit peu moins, après avoir lu tous ces articles et en avoir appris sur les micro-ondes, là, moi, je passe devant mon micro-ondes, ça me dérange moins. Mais j'ai encore la voix de ma mère, je me rappelle de quand j'étais petit, qui me disait « Non, mets pas ta face devant le micro-ondes, c'est dangereux, l'irradiation. Ouais. » Ben, je voulais juste vous dire que c'est peut-être moins dangereux qu'on le croyait.
Mais je garde quand même en mémoire ce que tu m'as dit tantôt, c'est que c'est à peu près dans la même gamme de fréquences que le Wi-Fi, comme oui. le téléphone cellulaire.
Exactement.
Deux items qu'on utilise à toute fin utile à tous les jours, et même plusieurs fois par jour. Donc, je me dis, si c'est pas si pire que ça pour le téléphone cellulaire qu'on porte à notre oreille, et si c'est pas si pire que ça pour le Wi-Fi qu'on utilise quotidiennement, ben, bien utiliser le micro-ondes, hein, ça peut rendre de fiers services, puis tant mieux si on l'utilise comme du monde. C'est...
Absolument. Faut pas être fou. Hein. C'est ça. Faudrait pas le faire fonctionner ouvert, pas se mettre la tête dedans, et pas mettre d'objets bizarres dedans, ni faire d'expériences douteuses.
Exactement, c'est bien dit. Pas d'expérience douteuse. C'est bien dit. Dans un tout petit instant, on va parler, entre autres choses, de bananes. Toi, ton sujet, ça va être quoi déjà pour le troisième bloc?
On va parler de l'espérance de vie des chiens.
Ah oui, OK, les
selon
chiens.
Selon leur race, oui, oui. Pour les grands amateurs amoureux de Pitou, moi, j'en suis un. Et puis, c'est bien de savoir des fois, c'est quelqu'un qui voudrait avoir les chiens qui vivent le plus longtemps, ah ouais. mais on va donner une idée de la race à choisir.
Parfait. Restez là. On revient dans un tout petit instant et on vous rappelle que si ça vous tente de nous faire part de vos questions, commentaires, suggestions, des affaires comme celle-là, vous pouvez nous écrire à pcdi@radiorfa.com, pcdi@radiorfa.com et on va prendre le temps de vous lire et de vous répondre, sinon de vous saluer en ondes quand vous nous faites part de votre écoute un peu partout à travers le Canada. Temps d'arrêt, puis on revient. C'est le troisième bloc dans un instant de Peu contenir des infos.
Avertissement, avertissement.
Cette émission
peut contenir des infos.
C'est le troisième segment, mesdames, messieurs. C'est donc la, si je calcule bien, il y a quatre segments. C'est donc la deuxième moitié de l'émission qui commence.
Et... Oui, on arrive aux trois quarts après, là.
Oui, c'est ça, c'est en quête des proportions. Hein. Continuons. Alors, à ce moment-ci de l'émission, notre ami Sébastien va nous parler de l'espérance de vie des chiens, mesdames, messieurs.
Ouais, mais qui n'aime pas les chiens?
Ben, c'est le meilleur ami de l'homme. Hein?
Ben, quel animal adorable. Ben, il y en a qui sont plus chats. Et moi, malgré que j'adore les chats, je peux rien enlever aux chiens. J'aime vraiment, vraiment les chiens. Puis ça fait longtemps là, que j'ai pas eu un chien, donc je suis dû. C'est peut-être la raison pour laquelle je suis allé faire des recherches là, par rapport aux races de chiens.
OK, t'es en psychothérapie là, à travers la radio. Dans un...
Oui, c'est de la zoothérapie aussi c'est que ça. Je veux faire plus tard. Ouais. Non, mais les propriétaires de chiens, pour avoir une idée de l'espérance de vie aussi de votre chien, peut-être qu'il y en a qui ne savent pas, ben, ça peut permettre aussi de prendre diverses mesures à différentes étapes clés de la vie d'un chien. Avoir une alimentation différente pour l'aider, une activité physique moins soutenue, si on sait que certaines races, là, après un certain âge, il faut faire attention. Donc, pour les maintenir en bonne santé aussi, je vais donner des petits trucs, mais des membres du Collège vétérinaire royal qui se sont appliqués à définir l'espérance de vie des chiens, ça, c'est au Royaume-Uni. Donc, on va y aller avec l'étude que j'ai trouvée du Royaume-Uni en se basant sur un échantillon de plus de 30 000 chiens. Donc, c'est beaucoup. Ils ont suivi la race, le sexe, la stérilisation aussi pour se faire une idée de l'espérance de vie. L'objectif de l'étude, c'était de permettre aux propriétaires de développer des attentes réalistes pour la durée de vie de leur chien. Bon, lorsqu'on connaît l'espérance de vie, ben c'est sûr, hein, on a une attente plus réaliste. Puis, guider aussi les propriétaires de chiens en compagnie des vétérinaires sur des décisions médicales qu'ils pourraient prendre qui seraient les plus appropriées aussi pour un chien. Parce qu'on s'entend que ça peut ne pas valoir la peine là, d'opérer, par exemple, un chien, mais que son espérance de vie en reste tellement peu.
Ouais.
Donc, faut prendre des décisions éclairées suite à ça. Alors, pour l'étude, ils ont décidé, les chercheurs, d'aborder la problématique de l'espérance de vie différemment des autres études du même genre. Alors, c'est pourquoi le choix de cette étude précisément, c'est une table de mortalité qu'ils ont faite. Ah. Au lieu d'offrir une valeur unique pour l'âge moyen du décès, là, c'est une table de mortalité qui est l'espérance de vie et la probabilité de décès à différents groupes d'âge pour une population donnée. Bon, ça a l'air compliqué, mais vous allez voir, ça va bien aller. Le format est utilisé par l'Institut national de la statistique et des études économiques. C'est possible de suivre, donc, pour chaque âge, la probabilité de décès dans l'année pour un chien. Puis la première table de ce genre qui existe, en fait, ça n'avait jamais été fait de cette façon-là. Donc, cette table de mortalité traduit l'espérance de vie de 18 races et des chiens croisés. Et je te disais, plus de 30 000, là, c'est 30 563 chiens exactement là, qui ont été étudiés, dont 47,7% qui étaient des femelles et 57,4% qui étaient stérilisés.
OK.
Et selon les résultats qu'ils ont obtenus, Les femelles gardent jusqu'à 12 ans une espérance de vie supérieure à celle des mâles. Je ne sais pas si tu savais que...
Ah ouais, hein?
Jusqu'à 12 ans. Ensuite, par contre, là, ça devient identique pour les deux sexes. Donc, avant 12 ans, les femelles ont plus de chances de vivre longtemps, mais lorsqu'on passe 12 ans, ça devient égal. L'étude révèle que les chiens stérilisés ont globalement une meilleure espérance de vie aussi.
Ah oui, hein?
Ça vaut la peine faire opérer les animaux si vous voulez qu'ils vivent longtemps. Là, ça a l'air à ça. En tout cas, les statistiques sont là pour le démontrer. Et puis, les races qui avaient la meilleure espérance de vie dans l'étude à la naissance. Aurais-tu une idée? Ou c'est difficile hein, aller nommer une race de chien comme ça sans avoir d'indice?
Je dirais que comme ça, là, j'aurais tendance à penser que c'est ni les chiens qui sont tout petits, ni les chiens qui sont super gros. J'ai probablement les chiens qui sont dans le milieu. Donc, ça pourrait être probablement pas des bulldogs. J'essaye de voir les... Je sais pas, des caniches.
Il est assez petit, le chien ouais, qui a la meilleure espérance de vie à la naissance, c'est le Jack Russell.
Ah, bon, OK, ouais, quand même.
Quel beau petit chien.
Oui,
hein,
c'est beau, hein. Vraiment... Est-ce que c'est pas le chien à Tintin, je pense, un Jack Russell ou quelque chose?
Ah, ça se peut, Milou, c'est un Jack Russell? Ah, ben là, tu me prends au dépourvu, je suis pas certain de la race de chien. J'ai pas été un grand fan de Tintin, c'était plus Astérix, moi, mais je sais pas plus si Idéfix, si ça. Je sais pas plus la race. Mais le Jack Russell aurait 12,72 ans d'espérance de vie à la naissance. Donc, ce qui est la plus haute. Donc, tu sais, c'est sûr que l'espérance de vie n'est pas énorme. Hein? Les chats vivent peut-être un petit peu plus longtemps parfois.
Non, on dit que Milou, c'était un fox terrier à poil dur. Alors, je n'étais pas
dedans. Ah, voilà. Ouais, okay. Fox terrier pour Milou. Puis, est-ce que tu vas chercher Idéfix aussi?
Oui, je vais chercher Idéfix.
Mais les Yorkshire qui arrivent en deuxième, est-ce que je le prononce comme faux, Yorkshire?
Oui, je pense que oui.
Yorkshire. En tout cas, c'est 12,54 ans. Il y a les Border Collie après avec 12,10. Les Springer anglais avec 11,92 ans. Puis à l'inverse, ben les chiens particulièrement fragiles. Tantôt, je t'avais entendu nommer Bulldog. Hein? Ben les Bulldogs français sont particulièrement fragiles. L'espérance de vie de naissance à 4 ans seulement.
Oh oui, hein?
Ouais, c'est 4,53, 4 ans et demi. Et l'étude est uniquement centrée sur les chiens britanniques, par contre, celle dont je te parle. Mais l'espérance de vie moyenne diffère beaucoup entre les pays. Mais un Labrador vit en moyenne 14 ans au Japon, mais seulement 12 ans et demi au Royaume-Uni et 10 ans et demi au Danemark. Donc, espérance de vie supérieure au Japon. Ça a une portée limitée, là, c'est sûr, les chiffres que je te donne à cause des modes canines aussi, qui sont variables entre les pays. C'est pas la même mode. Les races petites, miniatures, même, sont plus présentes au Japon, par exemple, qu'au Royaume-Uni, si on veut différencier. Puis même au sein des mêmes races, l'espérance de vie des chiens au Japon est plus élevée que celle au Royaume-Uni. Donc, c'est spécial, hein, les écarts entre pays qui peuvent venir d'une différence de culture, des propriétaires et des vétérinaires, par exemple. Sur l'euthanasie ou au contraire sur la poursuite d'un suivi thérapeutique lourd, chimiothérapie, tout ça. Parce qu'il y a certains pays qui font plus d'interventions, sont plus interventionnistes, comme on va dire, que d'autres au niveau de la prévention, point de vue des chiens. Il y a des places comme ici au Canada, là, sérieusement, là, les animaux, on n'opère pas beaucoup. Là. On n'est pas très, très préventionniste, puis on ne fait pas non plus des grandes, grandes choses médicales là, pour aider les animaux. À un moment donné, on dit, on va mettre fin, ça va être l'euthanasie. Ouais. Mais la politique d'une stérilisation précoce ou non, ça peut affecter la santé de l'animal, et là, ça dépend des pays. Si on y va avec la stérilisation. Sauf que, comme je te disais, du côté de la stérilisation, ça peut permettre une espérance de vie augmentée. Mais si vous voulez plus de détails sur cette étude-là, je vous invite à aller voir celle que j'ai trouvée dans la revue Scientific Reports. Alors, vous pourrez trouver sur les races de chiens à ce moment-ci. Et voilà, on se rappellera que le Jack Russell, en tout cas, une très belle espérance de vie comme race de chien, ça serait la meilleure.
Ouais. Puis pour Idéfix, on dit que, en tout cas, selon les observations, il se rapprocherait du Schnauzer blanc, du Bichon maltais et du West Island White Terrier, donc le Westie, là. Mais dans les films, ça a l'air que c'était un Westie, donc un West Island qui était maquillé. Alors, pour le personnage Idéfix, c'était...
Mais dans les films, je trouve pas qu'il est tant ressemblant au petit Idéfix des bandes dessinées. Non. Il est très spécial avec sa petite moustache, il a l'air d'un détective. Je trouve qu'il ressemblerait plus justement à un Jack Russell, on dirait.
Probablement, oui. je vais vous parler des bananes. Vous savez que c'est le fruit, enfin, l'un des fruits les plus consommés à travers le monde, la banane. Je pense que je ne surprends personne. Là. Je veux dire, ils s'en mangent tellement. Mm-hmm. C'est des tonnes et des tonnes de bananes. C'est un fruit qui est issu des régions tropicales avec un climat chaud et humide. Donc, les bananes qu'on consomme sont souvent le résultat d'hybrides. C'est des espèces d'hybrides, des cultivars qui ont été sélectionnés pour leurs caractéristiques spécifiques. Et savez combien de variétés distinctes de bananes existeraient à travers le monde, selon toi?
Je sais qu'il y en a beaucoup.
On parle de plus de 1000 cultivars ouais, hein. différents de bananes sur la planète. Un cultivar, là, pour l'info, c'est une variété de plantes, y compris les arbres, qu'on sélectionne en culture pour des caractéristiques uniques. Donc, on peut choisir un cultivar en particulier pour son aspect, la vitesse à laquelle sa croissance se fait, de quelle façon il s'adapte à son milieu, sa résistance aux maladies et, évidemment, la qualité de ses fruits, quand on parle de la banane et du bananier. D'ailleurs, les cultivars de bananes ont beaucoup évolué au fil du temps, puis il y a des nouvelles variétés de bananes qui apparaissent quand même assez régulièrement. T'sais, pour preuve, il y en a quand même plus de 1000 à travers le monde. Le bananier, est-ce que c'est un arbre selon toi, le bananier?
Le bananier, une plante?
C'est une plante. C'est une plante herbacée. Ouais, une plante herbacée qui est dépourvue de structures ligneuses. Ça a l'air d'avoir un tronc, mais en réalité, c'est un amas de feuilles qui sont toutes enveloppées les unes dans les autres parce que le véritable tronc, la base du bananier, en réalité, c'est tout ou à peu près est sous terre. Tout ce qu'on voit, là, ça ressemble à un arbre, mais c'est pas un arbre. C'est un... une plante, j'allais dire un arbre, mais non, c'est une plante herbacée qui est originaire d'Asie du Sud-Est, Papouasie-Nouvelle-Guinée plus précisément, et c'est la navigation commerciale qui a permis à la culture de bananes de se développer là, mais aussi ailleurs dans le monde. À peu près... on va dire au premier millénaire avant notre ère, elle a été transportée, la banane, en Inde, au sud de la Chine. Elle s'est retrouvée plus tard. On dit que vers l'an 500 à peu près, on a commencé à voir la banane à Madagascar. Et par la suite, à partir de l'an 650 environ, le bananier a été importé par les Arabes sur les côtes de la Méditerranée, en Afrique du Nord et en Espagne. Alors, vous voyez que le bananier a beaucoup voyagé et que ça date quand même pas d'hier qu'on bouffe des bananes. Et étonnamment, si je vous ai dit tantôt qu'il y a plus de 1000 cultivars distincts de bananes dans le monde, eh bien, sachez qu'il y a un cultivar de bananes ou à peu près qu'on consomme le plus à travers le monde, partout. La même banane, c'est la Cavendish. C'est un sous-groupe de cultivars de bananiers qui est originaire du Vietnam et de la Chine. Et c'est là très grande majorité des bananes commercialisées au niveau international. Et l'autre banane qui est aussi très consommée, le sais-tu? Devine.
Non, je ne suis pas un grand connaisseur de marques de bananes.
En tout cas, en Amérique du Nord, la banane plantain. Okay. Connais la banane plantain?
Alors, c'est une banane. Ça me dit rien.
Non, c'est une banane qui est souvent utilisée en cuisine, le plantain. Et c'est plus ferme, c'est moins sucré que la Cavendish. On la cuit souvent avant de la consommer. On la frit, par exemple. On fait on fait des chips de bananes, plus souvent qu'autrement, c'est de la banane plantain. On va aussi parfois la bouillir. On peut même la transformer en farine ou en pâte à beignets. Je vous dirais que s'il y a des gens qui nous écoutent de la diaspora haïtienne actuellement, cette émission-ci, les Haïtiens, entre autres, sont de grands consommateurs. Ils aiment beaucoup la banane plantain. Je vous ai parlé de deux types de bananes particulièrement connues. Si je m'étendais à faire les 1000 cultivars de bananes et plus qu'il y a dans le monde, on y passerait quasiment tout le mois. Mais parmi les autres cultivars de bananes que vous n'avez sans doute jamais vu ni goûté, il y a la banane Blue Java. C'est une variété très surprenante, une banane bleue.
Banane bleue.
On l'appelle banane bleue, banane à la crème glacée ou encore banane vanille. La Blue Java, c'est un cultivar de banane qui est quand même assez robuste et qui tolère bien le froid. C'est un fruit qui est aromatique, la Blue Java, qui est assez sucré et qui a une consistance étonnamment assez semblable à de la crème glacée. Puis la saveur, ça rappelle pas mal la vanille. Imaginez ça, manger une banane. Puis tu vous dites, vous pourriez manger un cornet de crème glacée à toute fin utile.
Banane qui est où est-ce qu'on peut trouver ça, là?
Je sais pas. Je n'ai jamais vu, moi, dans nos commerces, mais c'est une banane qui existe effectivement. Elle est originaire d'Asie du Sud-Est. C'est un hybride de deux cultivars de bananes qui sont originaires de la même région, la Musa balbiciana et la Musa acuminata. D'ailleurs, juste en passant, là, puis je vais te l'heure avec ça, là, la très grande majorité des bananes sont de proches parentes de l'espèce Musa acuminata, qui est l'un des premiers exemples de plantes que l'être humain aurait commencé à cultiver sur la planète il y a des milliers d'années, une plante de banane. Et sachez que la banane pousse très peu en Amérique du Nord, je ne vous surprendrai pas, on n'a pas nécessairement les températures. Il y en a, là, mais comme au-delà de la Floride, un petit peu en Géorgie, mais n'allez pas au Nord pour trouver des bananiers, là, ça n'existe pas. C'est l'État d'Hawaï qui est le premier producteur américain de bananes et d'ailleurs le seul État à en produire à des fins réellement commerciales aux États-Unis. Et les bananes, mais on va te l'or là-dessus, c'est une très bonne source de fibres, de potassium, de vitamine B6 et de vitamine C.
Et ça me fait rire, Simon, parce que les gens qui écoutent Peut contenir des infos cet automne ont tout un portrait d'histoire. C'est quelque chose. Après l'histoire du poulet, l'histoire, même le jeu de cartes traditionnel semaine dernière, mais tu sais, je veux dire, on va souvent dans des choses millénaires, puis je trouve ça fort fascinant. Toi qui me disais qu'il était un amateur d'histoire, on est servi.
On est servi, puis on est servi sur plusieurs sujets, de l'alimentation, des chiens, comme tu disais tantôt, les divertissements et tout ça. Et on va continuer dans un instant, puisqu'on va parler de magie après la pause. Oui. Quatrième et dernier bloc de Peut contenir des infos, on parle des types de magie. Restez branchés.
Peut contenir des infos.
Ben, on entreprend notre dernier quart d'heure, mine de rien, de Peut contenir des infos. L'ami Sébastien Boucher et moi-même, Simon Forgue, qui sommes là pour encore 12-13 minutes ou à peu près, là, peut-être un peu plus. Sébastien, tu nous parles cette fois-ci de magie.
De magie. J'aime les sujets comme ça aussi. C'est bien, là, parler de nutrition, parler de technologie, on parle de toutes sortes de choses, mais lorsqu'on entre dans les sujets plus mystérieux, comme j'avais parlé précédemment des fantômes, de l'hypnose et tout ça, j'aime bien. Oui. Là, je voulais faire des recherches sur la magie. Il manquait d'informations à moi-même, puis je me suis dit aussi, ça pourrait intéresser l'auditoire. Donc, on va parler de magie. Le mot français magie, ça vient du latin, magia, et lui-même est issu du grec. Donc, vraiment, un mot qui existe depuis longtemps, mais il faut remonter plus haut. Il faut aller jusqu'en Perse pour aller voir ce qui se passe avec le mot « magus », qui est « mage » en vieux perse, qui a été visible pour la première fois sur une inscription qui a été gravée en 515 avant Jésus-Christ.
OK.
Donc ça, pour ce qui est du mot « magie » en perse antique, qui est l'Iran actuellement, la perse antique, là, pour situer géographiquement. Puis, sur les exploits de Darius Ier, qui était roi de Perse, qui avait justement renversé un mage à l'époque. Alors, c'est lui qui avait parler de ce mage qu'il avait renversé. En perse, mage signifie science, sagesse. Hein? Un peu comme la sapience dans notre dictionnaire français, là. J'avais cherché un moment donné. Et sapience, c'est un peu la même définition que mage en perse. Il y a certains mages qui étaient prêtres.
Donc, les rois mages, c'était comme les mages de ton histoire, là. Les rois mages, là, de la divinité ou en fait du christianisme. Les rois mages, ça a un petit lien, là.
On pourrait, c'est lui, eux, oui, c'était considéré comme des mages, okay. Comme les premiers magiciens, en fait. Certains mages étaient prêtres, et je ne sais pas si les rois mages, ils l'étaient, eux, prêtres, faudrait fouiller un peu. Mais les mages prêtres avaient diverses fonctions, interpréter les songes, pratiquer la divination, tu sais, ça a commencé par des choses comme ça, sacrifier au soleil, à la lune, à la terre, au feu, à l'eau, au vent. Donc, très, très lié aux éléments. On participait aussi au pouvoir politique. On faisait des sacrifices royaux. On procédait à des rites funéraires. Toutes sortes de choses là, qui étaient attribuées aux mages, qui étaient prêtres aussi. Mais le mot mage en Occident existe depuis... Est-ce que tu veux tenter ta chance?
Et je dirais probablement dans les alentours du 6e ou 5e siècle, je ne sais pas. Je dis ça comme ça.
Non, on reste 5e siècle avant Jésus-Christ.
Encore? Ah oui, OK.
Oui, en Occident, le mot magie qui a longtemps évoqué des connotations négatives parce que avec le temps, l'idée de la magie s'est attachée à des pratiques spirituelles ou curatives. Puis là, c'est devenu un peu plus positif. Mais au départ, c'était des excentriques, des illégitimes, c'était des douteux, là, les gens qui pratiquaient la magie. Et puis, je voudrais qu'on parle, parlant de magie, on pourrait faire un petit segment sur un des personnages magiciens les plus célèbres de tous les temps. Je vais dire un enchanteur pour t'aider.
Ah, Merlin?
Oui, Merlin. En disant enchanteur.
Ben oui, c'est ça. Le seul coup, je suis là, cherche. Je voyais le chapeau pointu. OK, Merlin l'enchanteur. OK.
Merlin, vraiment, là. Lui, en gallois, son nom, c'était Myrdinc. Puis, communément appelé Merlin l'Enchanteur, là, personnage vraiment légendaire, c'est un prophète magicien qui était doué de métamorphose. Bien sûr, c'est un personnage. Et il commandait les éléments naturels, les animaux, dans la littérature médiévale. Puis, sa légende provient de Merlin à l'origine de la mythologie celtique galloise. On s'est inspiré d'un druide divin pour le personnage de Merlin. Il est mêlé à des personnages historiques aussi. Puis, son image, au début, à Merlin, était très sombre. Les plus anciens textes qui concernent Merlin le présentaient comme un homme des bois qui était torturé, qui était fou un peu, il était atteint de folie, mais doué d'un immense savoir qu'il avait acquis au contact de la nature. Lui, c'est vraiment la magie liée à la nature et les astres.
OK.
C'est l'observation des astres qui lui aurait permis d'avoir son pouvoir. Moi, je trouve ça merveilleux, ça, comme définition. C'est un peu ça que ça représente pour moi. La magie, pour moi, c'est la nature sur Terre. En tout cas, ça m'a poussé à faire des recherches là-dessus, mais on revient à Merlin. C'est pas une création des auteurs du cycle arthurien comme on pourrait penser au Moyen-Âge. Son origine à Merlin est beaucoup plus ancienne que ça. Le cycle arthurien, c'est quand on parle du roi Arthur, oui, là, tout oui. Ça, la table ronde. Ben, c'est plus vieux que ça, Merlin. ça a été redécouvert, christianisé, réinventé par différents auteurs. À l'origine, les textes gallois le voient comme un barde, puis Merlin devient un mythe littéraire grâce à sa popularité par la suite. Depuis le Moyen Âge, son personnage est mentionné vraiment souvent dans la littérature. On a construit son image par inspiration successive entre différents auteurs. On lit un vieux livre, puis un nouvel auteur ajoutait à l'histoire de Merlin comme ça, puis ça s'est propagé jusqu'à aujourd'hui. Depuis la fin du Moyen Âge, vers 1450, les savants posent la distinction entre deux sortes de pratiques de magie. On sait que la magie, c'est souvent magie blanche, magie noire.
Ben, c'est la plupart des magies dont on entend parler. Moi, quand tu m'as dit l'autre jour, je vais parler de magie dans l'émission, je me suis dit, ben, magie noire, magie blanche, je les connais, mais il n'y a pas que ça, là.
Il y en a d'autres. Il y en a d'autres de la couleur. Mais je voudrais qu'on commence par la magie noire, vite.
Okay.
C'est des effets négatifs du fait même du magicien, de sa personne. La magie noire, la personne est mauvaise. C'est comme si l'intention est vraiment mauvaise. La sorcellerie a des buts consciemment maléfiques. Aussi, quand on parle de sorcellerie, souvent, on ne voit pas très positif, là, mais ça pourrait l'être. Sorcellerie, ça reste à discuter, là. Ça peut être interprété différemment. Mais le diabolisme, là, tout ça, c'est lié à la magie noire. Et les mages noirs, les sorciers, passent pour être néfastes à la société parce qu'ils auraient empoisonné, ensorcelé, lancé des imprécations, invoqué des diables ou des démons, utilisé des figurines d'envoûtement. Là, tout ça, c'est de la magie noire. On provoque des sécheresses puis des orages, par exemple. Ce serait de la magie noire. Également pour faire du mal à autrui, puis se venger. Et pour des sortilèges d'amour même, forcer quelqu'un à nous aimer. Ça entre dans la magie noire. On y va avec la magie blanche?
Ben oui, vas-y.
C'est l'utilisation de la magie à des fins altruistes, là, ça c'est sûr, on s'en doute, hein, ou préventifs. Des moyens, c'est toujours positif ou presque toujours vraiment positif, bénéfique. La magie blanche serait là pour guérir, protéger, exorciser, renforcer, réconcilier. Elle invoque les esprits bons, elle invoque Dieu aussi. Donc, magie blanche, et jamais on invoquerait des mauvais démons avec cette magie. Et le terme « magie rouge »,
ah, ça, j'ai jamais entendu
ça,
parler.
Tu disais que les autres couleurs. Ben, ça a fait son apparition vers 1840, la magie rouge.
Okay.
La plupart des définitions, ça l'associe à la sexualité, à l'amour aussi, à la séduction, plaisir amoureux ou charnel, c'est la magie rouge. Maintenant, on va y aller avec magie verte.
Ça doit avoir quelque chose de rapport avec les arbres, la nature, je sais pas.
Ben oui. Okay. Même si la magie blanche aurait un lien avec la nature, la magie verte, c'est vraiment l'ordre naturel végétal, voire animal, si les bêtes sont sauvages. Ce serait tout ce qui est lié en magie avec le végétal. Il y a aussi la magie bleue. Cette magie-là serait quoi, selon toi?
Magie bleue, attends une minute, là. Je sais pas. J'hésite, évidemment, entre l'eau et le ciel.
Ça serait la magie de protection. Oui. Puis c'est pour ça, comme tu disais, là, que c'est très magie blanche et noire qu'on entend, parce que je te parlais de la magie rouge, sexualité, tout ça, amoureux, charnel, c'est souvent dans la magie noire que ça entre. Puis la magie verte et bleue entre souvent dans la magie blanche. Donc, c'est des distinctions pas nécessaires. Là. C'est pour ça qu'on les entend pas très souvent, mais ça existe. Il y avait des magiciens bleus, magiciens verts et tout ça. Et si je te demande, Simon, quel serait le premier tour de magie réalisé de tous les temps à l'époque de la préhistoire? Si je te dis que le premier tour de magie a été fait là.
Couper son pouce.
Non. Elle est bonne. Non. Mais non, la découverte du feu. C'est comme un tour de magie, cela.
Ben oui,
parce que c'est le tour de magie le plus ancien. C'est réalisé par un illusionniste, en fait. Celui qui a trouvé ça, là, c'est un illusionniste de préhistorique.
Wow!
Ben oui, parce que suite à l'époque de la préhistoire, bien sûr, là, il y a eu les druides, les sorciers, les sorcières qui font partie des mystères de l'histoire de la magie, tout comme la baguette magique aussi, là, c'est très populaire. Puis avec les Harry Potter, hein, ça a rendu la magie, la sorcellerie très, très populaire. La sorcellerie, justement, et les séances de spiritisme aussi, ça fait partie du côté obscur de la magie, la plupart du temps. Là, c'est sûr qu'Harry Potter, lui, l'utilise pour le bien. Donc, on peut utiliser sorcellerie, mais comme je te dis, là, si on regarde historiquement, le mot sorcellerie était plus associé à la magie noire là, que la blanche en général. Et il y a la divination, les sortilèges, le médium doté de pouvoirs surnaturels, les démonstrations de magnétisme, tout ça, c'est des sortes de magie. Et si je pose la question suivante, quel est le plus grand magicien du monde? C'est certain qu'il y a des noms qui te viennent à l'esprit.
J'aurais dit Harry Houdini.
Ça fait partie, mais il y en a un qui serait considéré comme le plus grand au monde présentement, et puis je t'expliquerai pourquoi ça a un lien avec
Copperfield?
Houdini. Oui, monsieur. Oui, M. David Copperfield est dans tous les palmarès, le numéro un que j'ai trouvé, en tout cas, là, à moins d'un palmarès secret que j'ai pas vu. Mais moi, quand je cherchais pour des palmarès de plus grands magiciens de tous les temps, c'est Copperfield, tout le temps, au numéro un, qui a donné toutes ses lettres de noblesse au spectacle de magie. Lui, c'est sûr qu'on s'entend, là, c'est un prestidigitateur ou plutôt un illusionniste qui est capable de faire disparaître des choses là, et se faire disparaître lui-même, à la limite. Il a débuté à 12 ans, David Copperfield, avec un petit jeu de magie. Donc, il est devenu passionné, spécialiste de la grande illusion sur scène. Il a été un exemple pour beaucoup de magiciens, là, en fait. Copperfield est la grande inspiration. Puis lui, il détient une collection de tours de magie de Jean-Eugène Robert Houdin. Puis là, tu me vois venir. Mais aussi Harry Houdini, qui, enchaîné, était capable de faire un tour de cartes. Et puis David Copperfield, il y a une collection de tours à Houdini. Lui, aujourd'hui, pas pour rien, hein, oui. Lui, Harry Houdini, on va en parler un peu. Son vrai nom, c'est Eric Weiss. Il était né Weiss. Il est né en 1874 à Budapest. Il est mort le jour de l'Halloween en 1926 à Détroit aux États-Unis. Bon, on était proche de l'Halloween, là, ça vient de passer. Mais un Américain d'origine hongroise, puis au début de la décennie 1890, il a adopté le pseudonyme Houdini et c'était en hommage à l'illusionniste français Robert Houdin.
Okay.
Donc, j'ai parlé que David Copperfield a ses tours aussi. Donc, c'était une inspiration. Son nom à Houdini est venu de ce français Robert Houdin. Et il a commencé sa carrière Houdini comme magicien dans les foires. Il était accompagné de son frère Théodore, dont le nom d'artiste était Théo Hardin. Et Harry Houdini, qui a acquis une grande notoriété médiatique en 1898, c'est là qu'il avait lancé un défi à la police de Chicago en disant qu'il pourrait se libérer d'une cellule de leur prison en moins d'une demi-heure. Il est parvenu à le faire en combien de temps?
En 20 minutes.
Trois minutes, grâce à un passe-partout qu'il avait dans son œsophage. Eh oui. Les meilleurs tours à Houdini, c'est vraiment s'évader de la malle remplie d'eau, fermée, enchaînée ou d'un bidon en métal. Puis au moment où le spiritisme avait acquis une popularité grandissante, il a cherché à démasquer les médiums Houdini. Hein. Il parcourait le pays, puis il exposait publiquement les trucs des autres magiciens. Puis ça, ça l'a rendu très crédible. Là. Souvent, les magiciens ont passé par là de dénoncer les autres. Puis de faire comprendre au monde que de la vraie magie, ça n'existe pas. Il y a toujours un truc. Ben, des grands magiciens comme Houdini faisaient ça. Ils voulaient démystifier tout ça. Puis ils voulaient vraiment que le monde ne croit pas à la magie, qu'il sache qu'il y a toujours un truc. Lui, il était fier de le montrer. Puis le fait qu'il ait fait ça, de démystifier les médiums, ça lui a permis d'accroître sa notoriété à Houdini. Vraiment devenu populaire avec ça. Il a gardé secrète ses meilleures astuces, mais il a pris soin de montrer qu'il y avait toujours un truc. Là. Vraiment, il le montrait. Puis ça lui a valu l'amitié de l'auteur Sir Arthur Conan Doyle, qui est l'auteur de Sherlock Holmes. Lui est devenu un grand ami d'Harry Houdini. Doyle pensait qu'Houdini possédait des vrais pouvoirs surnaturels qu'il utilisait pour bloquer ceux des médiums, pour que ça soit juste lui. Bon, c'est un auteur spécial, mais il s'est inspiré d'Houdini et est devenu son grand ami aussi. Donc, on peut voir aussi l'amour de la magie dans les livres d'Arthur Conan Doyle. Là, c'est toujours mystique un peu les livres de Sherlock Holmes. Puis moi, c'est un de mes auteurs préférés. Quand j'étais jeune, je lisais beaucoup de Sherlock Holmes. Ça m'emmenait dans une ambiance magique un peu, même si c'est pas du tout un livre de magie. Là, c'est un détective qui fait ça. Mais il y a toujours cette ambiance mystique autour de Sherlock Holmes et puis ça vient de son amitié avec Houdini quand même.
Ben, écoutez, c'est la conclusion de l'émission. On est obligé de s'arrêter là. On aurait bien voulu continuer, mais c'était à un moment donné, il y a toute bonne chose à une fin, comme on dit. Il faut se fixer un autre rendez-vous. On va être là la semaine prochaine.
Ben oui, semaine prochaine, fidèle au poste. Donc, pour ceux qui en veulent plus, mettez ça à votre horaire. Peut contenir des infos, c'est un incontournable.
Salut, merci, bonne semaine.